Bon, nous continuons notre étude sur la théologie réformée systématique. Ce soir, nous sommes à la leçon 4 et le titre que j'ai donné, c'est « Notre identité théologique chrétienne, universelle et évangélique ». Donc, c'est la partie 1. Ça va durer quelques semaines sur l'identité théologique. On va définir encore plus précisément au cours des prochaines semaines quelle est notre identité théologique comme des personnes qui vivent de la théologie réformée systématique. Alors, on va regarder ce soir trois choses. On va regarder qu'est-ce que c'est une théologie chrétienne biblique. La deuxième chose, on va regarder le fait qu'une théologie réformée systématique est aussi une théologie universelle. Et la troisième chose, on va regarder que c'est une théologie évangélique. On va définir tous ces termes-là et on va aller de plus en plus en précisant au cours des prochaines leçons. Alors, nous vivons à une époque de grande confusion à cause de la multiplicité des religions, des diverses croyances du Nouvel Âge, d'innombrables philosophies et visions du monde, des nombreuses dénominations plus ou moins définies et aussi de graves erreurs théologiques. Il est donc impératif d'être plus précis dans notre identité théologique et définir ce qui nous caractérise et ce sur quoi nous bâtissons notre foi. Nous avions mentionné lors de notre première leçon que nous indiquerions nos différences avec les enseignements du pasteur et auteur Joel Bickey. Nous le ferons dans cette leçon pour nous distinguer dans nos croyances avec les presbytériens, quoique nous sommes d'accord avec eux sur plusieurs sujets théologiques. Les presbytériens définissent en gros leur théologie de la manière suivante. Ils sont premièrement des chrétiens bibliques, deuxièmement des chrétiens catholiques dans le sens de universel, troisièmement des calvinistes, quatrièmement des pédobaptistes, donc qui baptisent les enfants d'un bas âge et les bébés, et cinquièmement des presbytériens. Et c'est vraiment dans cet ordre-là, leur théologie. Quant à nous, nous différons de la manière suivante. Nous sommes premièrement des chrétiens bibliques, deuxièmement des chrétiens universels, troisièmement, des calvinistes. Quatrièmement, des credo-baptistes. Donc, credo-baptistes, c'est des personnes qui se font baptiser sur la base de leur foi témoignée en public. Alors, ils sont baptisés sur cette base-là. Ils n'ont pas des bébés, c'est des personnes qui ont énoncé qu'ils croyaient en Jésus et qu'ils avaient compris la foi. Cinquièmement, on est des baptistes, mais des baptistes qu'on appelle, les anglophones utilisent le mot « particular baptist ». Donc, « particular baptist », c'est les baptistes de la grâce souveraine. Et nous aussi, on pourrait dire qu'on est des croyants de la théologie réformée. Dans cet ordre-là, nous aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va examiner tous ces concepts-là de notre théologie, notre identité théologique plus en détail. Alors, le premier point qu'on va regarder, une théologie chrétienne biblique. Alors, je dois vous dire qu'on pourrait utiliser une multitude de versets. J'en ai choisi juste quelques-uns parce que sinon, les leçons seraient vraiment trop longues. Alors, la Bible nous dit qu'on est des disciples de Jésus-Christ. Si on va dans le livre des Actes, au chapitre 11, les versets 25 et 26, nous lisons « Barnabas s'en alla ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église et instruisirent un grand peuple, et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. » Alors, on le sait, Christ est le fondement de notre foi. Alors, on peut aller voir au moins deux versets, deux passages qui nous confirment cela. 1 Corinthiens, au chapitre 3, et versets 10 et 11. Nous lisons, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Alors, Christ est le fondement de notre foi. Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30. Le Seigneur lui-même, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Les Écritures nous apprennent dans Jean 14, versets 7 à 9, que connaître Christ, c'est connaître Dieu. Alors on lit le passage, « Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? » On sait qu'on est des disciples de Jésus-Christ parce que Dieu le Père lui-même l'a confirmé dans Matthieu, chapitre 17, au verset 5. Ça dit, « Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Aussi, on peut voir qu'on est disciple de Jésus parce que tout l'Ancien Testament témoigne de la personne de Jésus-Christ. On peut lire, par exemple, dans Luc 24, les versets 25 à 27, et aussi les versets 44 à 46, où Christ lui-même parle de l'Ancien Testament qui parle de lui. Ça dit dans le verset 25, « Alors il leur dit, « Ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. » Ensuite, à partir du verset 44 à 46, « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fut accompli. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrît, et qu'il ressuscita des morts le troisième jour. » On a aussi, dans le Nouveau Testament, Jean, au chapitre 5, verset 39, le Seigneur dit à ses apôtres, « Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Le témoignage de l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament avec l'aide du Saint-Esprit, comme nous pouvons le lire au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, les versets 13 à 15. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On peut donc dire que le but ultime de la théologie biblique est donc exprimé dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, les versets 1 et 2. Bien-aimés, voici donc la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Donc la théologie chrétienne et biblique, c'est la théologie qui est faite avec la foi en Christ, en soumission à Christ et à la lumière de la parole de Christ. On va passer maintenant au deuxième point qui est une théologie universelle. Le mot catholique est parfois utilisé pour parler de l'universalité de la foi chrétienne. Il faut se rappeler que le mot catholique a le sens d'universel. Ce mot ne réfère pas nécessairement à l'Église catholique, mais signifie étymologiquement général, universel. Le côté universel de la foi chrétienne s'est manifesté historiquement. Dans, premièrement, les credos, on sait que depuis les apôtres, les chrétiens ont développé des écrits pour défendre leur foi et préciser leurs croyances contre les attaques nombreuses et vicieuses du malin et de ses serviteurs, les faux prophètes et les faux enseignants. Vous pourrez découvrir toute la richesse de cet héritage chrétien sur le site web suivant. Et ceux qui vont télécharger les notes vont pouvoir avoir ce lien-là dans le PDF et vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez vous ramasser sur un site chrétien où il y a énormément d'informations et où vous allez pouvoir lire tous ces grands credos, ces grands symboles de foi qui ont été écrits dans les premiers siècles après le départ de Christ. Alors le premier dont on peut parler, c'est celui du symbole des apôtres. Bien sûr, je vous ai mis aussi un lien, vous allez pouvoir aller le lire en ligne. Le symbole des apôtres qui a été écrit environ 150 ans après Jésus-Christ est vraiment un sommaire essentiel de la foi apostolique. L'historien chrétien Philippe Schaff a dit de ce symbole, sublime en sa simplicité, bref, de façon insurpassable, dans un ordre magnifique et avec une solennité liturgique. Donc le premier qu'on voit, c'est vraiment le symbole des apôtres. Le deuxième, c'est le symbole de Nicée-Constantinople, qui est écrit en 325 et aussi développé à 381 après Jésus-Christ. Là aussi, je vous ai mis un lien où vous allez pouvoir aller lire et constater comment les premiers chrétiens avaient écrit pour défendre leur foi et pour promouvoir la vérité. La troisième, c'est ce qu'on appelle la définition de Chalcédoine, qui, elle, a été écrite en 451 après Jésus-Christ. C'est le document qui défend la position de Jésus-Christ comme étant pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, c'est des documents qui ont été très importants à l'époque parce qu'il y avait des problèmes qui surgissaient à cause de faux témoins, de faux enseignants, de faux prophètes qui compliquaient les choses et qui soit niaient ou soit amoindrissaient le fait que Jésus soit pleinement homme et la même chose avec le fait qu'il soit pleinement Dieu. Alors là aussi, je vous ai mis un lien que vous allez pouvoir aller cliquer dessus et aller pouvoir lire l'ensemble de ce qui est écrit dans cette définition de Chalcédoine. Je recommande bien vraiment à ceux qui nous écoutent de prendre le temps d'aller lire ces choses-là. C'est important. On voit que la défense de la foi, comme on dit, n'est pas d'hier. Alors, c'est aussi la définition de Chalcédoine. J'y ai mis un lien, vous allez pouvoir cliquer dessus et accéder à toute l'information. On rappelle que dans les Écritures, au chapitre 2 de Colossiens, au verset 9, ça nous dit d'une façon très claire, en parlant de Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ensuite, un autre symbole ou credo, c'est le symbole d'Athanase, qui lui a été écrit 500 ans après Jésus-Christ. Là aussi, je vous ai mis un lien que vous allez pouvoir aller le lire en ligne. Alors ça, c'est vraiment le symbole d'Athanase, c'est celui qui défend la doctrine de la Trinité et aussi de la divinité de Jésus. Bien sûr, on ne peut pas aller dans les détails là-dedans, sinon notre but, ce n'est pas vraiment de regarder, d'étudier les symboles, c'est plutôt de voir que depuis le début, nos pères dans la foi et les grands leaders chrétiens ont été sous attaque de façon constante et qu'ils ont développé des outils pour rassurer les chrétiens qui étaient ébranlés et aussi préciser leur foi. Alors on lit par exemple dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, 18 et 19, jusqu'au verset 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est fortement recommandé de connaître ces documents et de comprendre les intentions de protection de la foi chrétienne et de promotion de la vérité publique qui ont été faits par ces groupes d'hommes ou par ces hommes individuellement. La troisième idée qu'on va regarder, c'est que une théologie, dans la définition de notre théologie réformée, c'est vraiment une théologie évangélique. Alors aujourd'hui, le mot évangélique est utilisé, comme on pourrait dire, à toutes les sauces. Alors je pense qu'on a besoin de vraiment venir développer et expliquer un peu en quoi consiste le mot, la croyance au mot évangélique. Certains ont proposé une définition du mot évangélique de la façon suivante, par quatre mots. Biblicisme, donc que la Bible est le seul guide spirituel et le seul guide ayant autorité dans la vie du croyant. L'homo aussi crucicentrisme, donc autrement dit la centralité de la croix, la mort de Christ sur la croix, est le cœur de la foi et de la vie chrétienne. Aussi le mot conversionnisme, donc autrement dit, la conversion, la nécessité de la conversion, la repentance du péché et la foi en Christ sont essentiels au salut biblique. Et la quatrième mot qui avait été utilisé pour caractériser le mot évangélique, c'est le mot activisme, dans le sens de les chrétiens se doivent de travailler ensemble pour répandre l'évangile à toutes les nations. Alors, cette approche a certains mérites. Elle tient compte de l'analyse historique du mouvement chrétien dans le monde anglophone. Elle néglige cependant les aspects plus anciens, plus profonds et plus larges du terme évangélique. Nous proposons que la théologie évangélique soit définie en référence à l'évangile biblique historique et aussi en référence aux enseignements des églises réformées tels que déclarés dans leur confession de foi historique, et aussi les cinq solas. Alors, c'est vraiment un sommaire de ce qu'on appellerait la théologie évangélique. Donc, on pourrait dire que c'est d'abord un évangile biblique. C'est vraiment l'évangile enraciné dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, tel qu'enseigné dans les Saintes Écritures. On peut dire avec certitude que cet évangile est d'une richesse insondable. Si on lit par exemple dans Éphésiens au chapitre 3, les versets 3 à 8, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, son co-héritier, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alors, quand on parle d'incompréhensible, ici, c'est vraiment insondable. Cet évangile, donc d'une richesse insondable, c'est aussi un évangile d'une simplicité qui peut être compris par un enfant. Dans 2 Timothée, par exemple, au chapitre 3, dans le verset 15, nous disons « Dès ton enfance, Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous trouvons un excellent sommaire de l'Évangile dans ce passage du Nouveau Testament. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 5. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Alors, dans ce passage-là, si on remarque bien, puis si on prend le temps d'analyser, l'apôtre Paul souligne 7 vérités centrales de l'Évangile. On les regarde, une par une. La première, c'est que l'Évangile est un message de Dieu qui fait autorité. L'Évangile est le message de Dieu. Il ne doit pas être changé, ni rejeté, mais reçu et transmis aux autres. La deuxième vérité centrale de l'Évangile, c'est que le message présente la personne unique de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, envoyé pour sauver les pécheurs. Christ est loin de Dieu, qui veut dire le prophète loin, le prêtre ou sacrificateur loin, et aussi le roi loin. Troisième vérité centrale de l'Évangile dans ce passage-là, c'est que le message proclame la mort expiatoire et propitiatoire de Christ. Christ est mort pour nos péchés. Cela signifie que Christ, qui était parfaitement innocent et sans péché, a reçu la punition que nous aurions dû recevoir à cause de nos péchés. Lui seul pouvait expier les péchés de son peuple. Nos œuvres ne peuvent aucunement expier pour nos péchés. Quatrième vérité centrale du passage de 1 Corinthiens 15, c'est que le message proclame la résurrection corporelle de Christ. La résurrection confirme la validité de l'œuvre et de la mort de Christ comme sacrifice pour l'expiation de nos péchés et elle garantit notre justification. Allons par exemple dans Romains au chapitre 4, les versets 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc la résurrection accomplit la prophétie que Christ avait faite sur lui-même dans Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Le cinquième point, cinquième vérité centrale de l'Évangile, c'est que le message confirme la réalité historique de ces gens, de ces événements. Paul affirme catégoriquement que si ces faits ne sont pas vrais, la foi est vaine. Il dit dans le verset 13 à 18 de 1 Corinthiens 15, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sixième vérité centrale de l'Évangile, c'est que le message enseigne le plan de Dieu pour l'histoire humaine. Alors, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire ici, mais on va se contenter de lire le chapitre 2 du livre des Actes, les versets 22 à 32. Très intéressant de voir que tout cela, ça fait partie du déroulement du décret de Dieu, des choses qui avaient été décidées de toute éternité. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et la septième vérité centrale de l'Évangile, du passage de 1 Corinthiens 15, 1 à 5, c'est le message enseigne la nécessité de la foi dans l'Évangile biblique. Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La théologie évangélique doit proclamer ce concept biblique, exposer ses implications, défendre sa véracité et nous appeler à conformer notre vision du monde à sa réalité. Tout comme l'ensemble de Marc, l'évangile de Marc est appelé l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en Marc 1:1. De même, tout le système de la théologie évangélique devrait être formé par le contenu de l'évangile et en tirer une puissance spirituelle. Donc, on vient de voir la question de l'évangile biblique. Là, la deuxième chose, il faut regarder comment ces choses-là se sont manifestées dans les confessions de foi de la réforme historique. Jean Calvin, on le sait, a contribué par son ouvrage « L'institution de la religion chrétienne ». Les puritains ont aussi beaucoup contribué à développer la théologie de la réforme. Les puritains étaient des protestants anglais des 16e et 17e siècles qui cherchaient à purifier l'Église d'Angleterre des pratiques catholiques soutenant que l'Église d'Angleterre n'avait pas entièrement été réformée et devait devenir plus protestante. Alors, si on regarde au cours de l'histoire de la Réforme, les grandes dénominations protestantes ont contribué à maintenir la vérité de l'Évangile par l'écriture de confessions de foi qui avait pour but de protéger les chrétiens des faux enseignants et de promouvoir la vérité, faire connaître la vérité. Alors, il y a eu les luthériens. Eux, ils ont écrit la confession d'Augsbourg, qui est un texte majeur du luthéranisme, publié le 25 juin 1530 à Charles Quint, lors de la diète d'Augsbourg. On ne pourra pas rentrer dans les détails, juste donner les grandes lignes. On sait aussi que l'Église d'Angleterre a aussi contribué par ce qu'on appelle les 39 articles. En anglais, c'est « The 39 Articles of Religion ». Alors, ça, c'est un énoncé de la doctrine et des pratiques anglicanes établies en 1563. Il y a eu toutes les contributions aussi qui ont été faites par l'Église réformée hollandaise. En anglais, ils disent « Dutch Reformed Churches ». Alors, ils ont contribué en écrivant la confession belge qui appelle, entre 1561 et 1619, le catéchisme de Heidelberg en 1563, les fameux canons de Dordrecht en 1619. Il y a aussi l'Église presbytérienne qui a contribué très fortement aussi par la fameuse confession de foi de Westminster de 1646, leur grand catéchisme de Westminster en 1648 et aussi le petit catéchisme de Westminster aussi en 1648. Et aussi, alors on voit que c'est quelque chose qui était dans tous les pays ou les grandes confessions de foi de l'époque. Il y a aussi les églises congrégationalistes qui ont écrit la Déclaration de Savoie, qui est une confession de foi congrégationaliste publiée en 1658. Son titre entier était une déclaration de la foi et de l'ordre détenu et pratiqué dans les églises congrégationalistes en Angleterre. Et on a aussi notre propre contribution de notre propre milieu, les réformés baptistes, qu'on appelle en anglais les Particular Baptists, qui ont écrit la confession baptiste de Londres de 1644 et aussi la confession baptiste de Londres de 1689. Alors, beaucoup de confessions qu'on vient de nommer là, peuvent être lus sur le site dont je donne le lien dans ceux qui vont télécharger les leçons. Alors, bien sûr, les Wesleyens et les Arminiens ont produit également des documents. Voici comment le grand théologien Benjamin Warfield, qui a vécu entre 1867 et 1921, considère les confessions de foi qui avaient été écrites par les Arminiens. Il dit « Ils sont des évangéliques incohérents parce qu'ils ont rejeté l'absolue souveraineté de Dieu dans le salut et ils ont cru en la capacité de l'homme de contribuer à son salut par son libre arbitre. » Et aussi, une autre chose qui a contribué à maintenir, à défendre la foi et à défendre la vérité et à si on a les fameux cinq solas. Donc, sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule, sola gratia, qui veut dire par la grâce seule, solus Christus, qui veut dire en Christ seul, sola fidei, qui veut dire par la foi seule, soli deo gloria, qui veut dire à Dieu seul la gloire. Bien sûr, ici, on pourrait développer énormément, dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas le faire dans une leçon comme cela. De toute façon, dans les prochaines leçons qu'on va voir au cours des prochaines semaines, ça va tout revenir et on va développer cela avec le temps. Mais en attendant, je vous recommanderais l'ouvrage du pasteur Pascal Denot de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme au Québec. Alors, il a publié un livre qui s'appelle « Sola », S-O-L-A-S au pluriel, la quintessence de la foi chrétienne, et il est disponible à la librairie chrétienne de publicationschrétienne.com. Là aussi, j'ai donné le lien, vous pouvez aller sur le site, cliquer là-dessus, vous allez avoir les détails sur le livre. Moi, je l'ai lu personnellement, et pour expliquer les cinq solas, là, c'est vraiment une œuvre importante et qu'on se devrait, comme chrétien, de tous lire. Trois applications de ce qu'on a vu aujourd'hui. La première, excusez. Prions le Seigneur de nous donner la capacité spirituelle de discerner si nous vivons notre foi dans une église locale qui est centrée sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ telle que définie dans les Saintes Écritures. Deuxième application, assurons-nous de l'universalité de notre théologie. Cette universalité s'exprime dans l'enracinement des confessions de foi historiques, les credos, élaborés par des leaders de nos communautés chrétiennes bibliques. Et troisièmement, troisième application, comprenons de plus en plus et de mieux en mieux le côté évangélique de notre foi. Familiarisons-nous davantage avec l'Évangile biblique et ses sept vérités centrales que nous avons vues dans cette leçon. Étudions les confessions de foi issues de la réforme du 16e et du 17e siècle et maîtrisons la signification profonde des cinq solas. Toutes ces choses sont essentielles pour vivre notre foi évangélique. Que Dieu nous vienne en aide et nous donne le vouloir et le faire d'actualiser concrètement et quotidiennement ces saintes résolutions par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.